Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'Empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'Empreinte.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Laetitia Cousy, la responsable RSE de Dell, le fournisseur de solutions technologiques, de services et de supports. Et face au gaspillage et à l'obsolescence programmée, souvent dénoncée par des consommateurs, comment Dell s'engage? Et c'est ce qu'on va voir ensemble. On va connaître tous les engagements de la marque et je suis ravie de t'accueillir dans l'Empreinte, Laetitia.
Merci Alice, bonjour.
Bonjour et puis bienvenue dans nos nouveaux studios, parce que c'est le premier épisode dans nos nouveaux studios. Je suis ravie de t'accueillir. Toi, ça fait combien de temps que tu travailles chez Dell?
Ça fait plus de 18 ans.
18 ans. Ouh là là, t'as dû voir un... Tu l'as depuis quand, le poste en RSE?
Alors, je suis sur la RSE depuis un peu plus de 6 ans, en fait. Avant cela, j'étais en charge de tous les programmes de diversité pour le groupe en France, donc pour les employés, et également les partenariats. On a deux grands partenariats caritatifs avec la Fondation FACE, Fondation Agir contre l'exclusion, et Gustave Roussy, pour aider au traitement des cancers pédiatriques. Et donc, j'ai eu le grand plaisir de mettre cette phase en France. On était le pays pilote, donc de mettre en place cette phase pour Dell Technologies en France. Et ça a été une très belle aventure, parce que j'ai fait ça pendant presque 10 ans.
Donc, tu as toujours été quand même sur des sujets à impact. Hein.
Oui, voilà. Et puis...
Et pourquoi, si on peut revenir en avant, c'est des sujets que tu portes depuis longtemps. Tu voulais déjà du sens dans ta vie
C'est ça, oui. J'ai fait du bénévolat aussi avant, dans ma vie... Perso, c'est vrai qu'à l'époque, on mélangeait pas trop ce qu'on faisait dans le perso et le pro. Et chez Dell, justement, c'était tout l'inverse, en fait. On avait l'occasion de pouvoir passer du temps sur notre temps de travail pour aller aider des gens qui en avaient besoin. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. C'est aussi pour ça que je suis là depuis longtemps. En fait.
C'est génial. Et ton poste a été créé pour toi, par toi, ou en fait, quelqu'un l'avait avant toi?
Non, c'est moi qui...
C'est toi qui l'as fait. Oui. Oh, j'adore l'audace. Mais c'est toi qui as proposé la création de ce poste?
Oui, c'est moi qui l'ai
jusqu'au
proposé.
Bout. Ouais. J'adore. Et pourquoi? Parce que tu voyais que de plus en plus de personnes, s'engager.
Oui, alors à l'époque, on était encore assez timide chez Dell Technologies pour communiquer sur ce qu'on faisait en termes sociétal et social. Et je me suis rendu compte, donc j'ai commencé à aller en clientèle et raconter ce qu'on faisait pour Gustave aussi, pour les jeunes qui sont dans la fracture numérique, pour FACE par exemple. Et en fait, j'ai senti qu'il y avait une curiosité de la part de nos clients, je trouvais qu'on, quelque part, on inspirait aussi nos clients ou nos partenaires sur ces sujets-là. Et en plus, c'était un dialogue qui était passionnant avec nos clients, enfin d'échanger sur ces sujets. Je trouve que c'est très enrichissant. Et donc, j'ai vu mon patron de l'époque et je lui ai dit, écoute, là, on a un trou dans la raquette. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui embarque vraiment ces sujets complètement sur tous les sujets de la RSE et qu'on en parle. Voilà.
Tu me parles beaucoup d'humains, mais il n'y avait pas encore tous ces enjeux écologiques à l'époque.
Non.
Donc il n'y avait pas d'engagement pris. Personne.
Si. Alors les engagements étaient pris, mais on n'en parlait pas. Donc en fait, voilà, on n'en parlait pas.
Et maintenant, puis même du coup, il y avait peut-être moins de guidelines, moins de KPI, etc. là-dessus, avec des objectifs concrets, vu que c'était plutôt...
C'est pas tellement ça, en fait. C'était que des objectifs, il y en a eu, effectivement, dès 2013, sur tous les piliers de la RSE, parce qu'en fait, on a quatre piliers au niveau RSE. Donc il y a la partie environnementale, il y a la partie diversité et inclusion, il y a la partie transformation des vies, donc tout l'apport caritatif, également la partie éthique et data privacy. Mais on ne communiquait pas assez, en fait. Et c'est vrai que... et puis, il y a eu une demande aussi de la part de nos clients. Il y a eu une demande du marché. Les mentalités ont évolué. Et il fallait pouvoir dire, non, on a pris des engagements déjà.
C'est compliqué pour une marque de communiquer sans être taclée de greenwashing, justement.
Oui, mais ça s'est fait progressivement, en fait. Et puis, ça s'est fait tranquillement, voilà, en répondant à nos clients. Et puis, le greenwashing, maintenant, ça, enfin, moi, je...
On en voit de moins en moins, de toute façon.
Je pense que ça ne marchera plus. Enfin, ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Je pense qu'une société qui fait du greenwashing aujourd'hui...
Le consommateur le voit tout de suite, il est beaucoup trop éduqué, il a beaucoup trop d'outils à sa disposition pour checker ce qui se fait vraiment.
Oui, c'est ça. Donc, il faut être sincère dans la démarche. Je pense que c'est le cas de Dectology. Enfin, je le crois en tout cas, et c'est pour ça que je suis toujours dans cette boîte, et je trouve qu'on fait des choses quand même qui font la différence. Donc, et c'est passionnant.
Raconte-moi alors, du coup, c'est ce que vous faites sur ces quatre piliers. Enfin, brièvement, peut-être un exemple pour illustrer, parce que je pense que vous faites beaucoup de choses, mais peut-être toi, les exemples les plus marquants en termes d'impact, parce que quand on voit quand même la défiance et la méfiance des consommateurs pour des entreprises qui sont quand même dans la tech, on parle d'obsolescence programmée, tu me parlais de data, de privacy, etc. Oh là là, mais c'est vrai que c'est au cœur de tous les enjeux actuels, de toutes les problématiques. Quels sont les engagements d'aide là-dessus?
Alors, sur la partie, sur le pilier environnemental, par exemple, depuis très longtemps, on est engagé dans l'économie circulaire. Pour une raison toute simple, en fait, je pense. Enfin, c'est mon interprétation des choses, mais peut-être que je me trompe. Mais en fait, toutes nos solutions portent le nom de Michael Dell. Donc, le moindre ordinateur portable, la moindre solution de stockage, toutes nos solutions portent son nom. Donc, c'est quand même lui qui a créé sa start-up en 84.
C'est pas si vieux, hein.
Non, c'est pas si vieux.
Ouais, c'est fou. Bon, après, je suis née après, mais quand même, pour moi, Dell existe depuis très longtemps.
Et donc, à mon avis, il s'est tout de suite rendu compte que l'économie circulaire, c'était stratégique pour la réussite de sa société à l'époque, qui n'était pas encore un groupe, je pense.
Pour le bon sens de base, pour faire des économies, en fait, c'est ça?
Pour le bon sens, et puis pour moins polluer. Enfin, je pense que...
Ah, donc déjà, il avait cet enjeu de pollution.
Il y a quelque chose qui serait dramatique, ce serait de voir nos solutions flotter sur des décharges illégales quelque part dans le monde. Donc ça, c'est juste pas possible. Donc, on fait vraiment tout pour que ça ne se produise pas. Et donc, on essaye de réutiliser au maximum les matériaux qu'on utilise, les plastiques, par exemple, les fibres de carbone.
Vous avez essayé de les recycler, de les rendre recyclables, parce que le plastique, c'est plus du tout fantastique aujourd'hui. Le consommateur, ce matériau, il n'en veut plus. Ouais. Comment vous faites? Ça doit être compliqué, non?
Alors, on fait plusieurs choses. Donc, déjà, on réutilise les plastiques. Donc, on a été les premiers constructeurs d'IT à avoir des chaînes de production où on réutilise les plastiques en circuit fermé, c'est-à-dire on les prend de nos solutions et on les réinjecte. Donc, c'est sûr qu'à peut-être à chaque fois, il y a un peu de perte, mais enfin, en tout cas, déjà, on récupère l'essentiel. Donc, ça, c'est en circuit fermé. Après, on récupère des plastiques aussi. On a mené une action avec un consortium qui s'appelle NextWave pour récupérer des plastiques qui polluent les océans. On sait que ça, c'est une vraie calamité, c'est un vrai fléau. Et donc, à plusieurs, donc ça, c'est aussi l'esprit du groupe, c'est de s'associer avec d'autres entreprises pour avoir un impact plus fort. On peut collecter plus de plastiques. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les mélange à d'autres plastiques recyclés.
Puisque tous ne peuvent pas être mis dans les... Enfin, tous les plastiques n'ont pas les mêmes propriétés.
C'est ça.
Donc, il faut les trier, etc. Oui, bien sûr, c'est compliqué.
C'est un peu compliqué. Après, on utilise des plastiques de pare-brise, donc d'une autre industrie, pour faire les sacoches de transport de nos ordinateurs.
Et depuis combien de temps, tout ça?
Alors,
ça s'est accéléré quand même.
Ça s'est accéléré. Donc, les plastiques en circuit fermé, ça date de 2014. Depuis 2015, on récupère aussi les poussières de fibres de carbone du secteur aérospatial, et on les mélange aussi au plastique recyclé pour les coques de nos ordinateurs portables. NextWave, donc le consortium pour lutter contre la pollution maritime, c'est depuis 2017. Et puis, après, il y a aussi d'autres choses qu'on essaie de récupérer, notamment les métaux rares, donc les métaux rares des aimants, des disques durs, et pouvoir les réutiliser. Donc là encore, on s'est associé avec un autre acteur qui est Seagate, qui est un fabricant de disques durs. Et on a trouvé une solution pour récupérer ces métaux rares. Donc, ce qui est bien, c'est que ça ne bénéficie pas que pour Dell Technologies, mais tous les constructeurs IT qui achètent des disques durs Seagate bénéficient aussi de cette récupération de métaux rares. Donc, c'est un peu la philosophie du groupe, quoi.
Oui, donc le fait, demain, si vous souhaitiez avoir zéro déchet, ce serait votre rêve, mais quels sont les points bloquants à cette circularité complète finalement. Par exemple, tu me dis, on doit réinjecter dans le nouveau plastique des anciens plastiques, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas demain avoir un PC 100%
Alors, on va vers
circulaire.
Ça, puisque là, on utilise des bioplastiques. Donc, c'est-à-dire, c'est de l'huile de talc, c'est-à-dire qui vient des déchets de l'industrie de papetière. Et effectivement, on s'en sert pour les coques de nos d'une certaine gamme d'ordinateurs portables. On a lancé cette initiative cette année, donc c'est très récent. Donc, on va vers ça, effectivement.
C'est le but à terme, c'est de plus utiliser une ressource et juste de réutiliser. Et même après, en termes d'impact, la transformation, j'imagine qu'elle a aussi un impact. Tout ça, ça doit se calculer. Je pose des questions parce que finalement, l'optimisation de son impact, c'est du calcul. On en parlait tout à l'heure, c'est un équilibre. C'est comment on fait pour utiliser, transformer, mais sans émettre trop de CO2, de réutiliser. C'est un travail d'équilibriste, en fait.
C'est ça. Et puis, il y a aussi des engagements forts du groupe de réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc,
c'est quoi la raison d'être, d'ailleurs, de Dell? Vous l'avez définie ou pas?
La mission, c'est créer des technologies qui vont conduire au progrès humain. C'est ça, notre mission.
Il faudra rajouter propre. Créer des technologies propres. J'ai pimpé la raison d'être de Dell. Non, mais c'est... Oui, d'accord. Donc, c'est très axé sur l'humain. Donc,
c'est un autre
quand même des piliers dont tu me parlais. Et puis, c'est des engagements, toi, que tu amènes depuis 18 ans maintenant.
Ouais. Et puis, c'est vrai, quand on regarde ce qu'on a fait avec Gustave aussi, par exemple. Donc, au début, on a démarré le partenariat avec l'école de Gustave Roussy pour les enfants qui sont scolarisés et pour qu'ils puissent continuer à être scolarisés. Donc, on fournissait des solutions informatiques. Et puis, petit à petit, du partenariat, on a développé. Et puis, on s'est rapproché du centre de recherche de Gustave Roussy. Et on a notre monsieur HPC chez nous qui a dessiné une solution HPC sur mesure pour le centre
HPC,
de recherche.
HPC, tu peux me dire ce que c'est?
High Performance Computing.
OK. Parce que même je ne comprends pas. C'est du jargon, mais j'imagine que toi, tu dois l'utiliser tous les jours. Mais c'est vrai que pour nos auditeurs, HPC.
Et donc, en fait, le but, c'était, parce que quand on parle de cancer de l'enfant, on parle des cancers de l'enfant. Donc, c'était de réduire les temps de calcul pour savoir à quel type de cancer les centres de recherche avaient affaire. Et on a réduit quand même, on a passé les temps de calcul en semaine à quelques heures.
Quand
je vois ça, je me dis, il y a des exemples comme ça, bien sûr, il y en a. Mais bon, là, c'est vrai que c'est un impact local en France. C'est quelque chose, c'est un partenariat donc que j'affectionne particulièrement. Je trouve que ça fait la différence, quoi, et ça sauve des vies. Donc, on est vraiment là dans la mission du groupe. On est vraiment dans la mission du groupe.
C'est génial que des grands groupes puissent s'engager comme ça, à faire autre chose que simplement vendre des produits. C'est ce que j'aime aussi dans ces grands groupes, c'est qu'ils peuvent.
Et c'est toujours accompagné par du bénévolat. Des employés, pas que pour Gustave aussi d'ailleurs, on a notre siège social qui est à Montpellier, donc aussi pour l'Institut du cancer de Montpellier, il y a des bénévoles qui se déplacent dans l'hôpital et qui font ça sur leur temps de travail. Voilà, c'est quelque chose qui nous anime, qui fait partie de notre quotidien, donc bien sûr on fait notre business, on est là pour ça au départ, mais en plus on partage des valeurs qui nous sont chères et ça crée aussi une autre relation entre employés, c'est sûr, donc on est inspiré je pense par Michael Dell, par le boss, c'est évident. Mais entre nous, ça crée des relations plus fortes, plus riches. Et c'est pour ça aussi qu'on est là. Enfin, il y a beaucoup de gens comme moi qui sont là depuis des années. Donc, c'est pas pour rien.
Tu y verras encore des années?
Oui. Bon, maintenant, je suis un peu plus âgée, donc ça va être compliqué
de
faire autant.
Je te promets que tu les fais pas.
Mais oui, c'est une aventure passionnante, vraiment.
Et quels sont les points bloquants que tu rencontres au quotidien pour accélérer? Est-ce qu'il y a un engagement pris, d'ailleurs, sur la neutralité carbone ou pas?
Alors oui, donc on souhaite être neutre en carbone d'ici 2050 et réduire en carbone. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup à faire parce qu'on a quand même un scope de produits qui est très large. Donc c'est pour ça que c'est d'ailleurs 2050. Et on veut réduire au maximum. Parce que évidemment, je pense qu'il sera inévitable de faire un peu de compensation, mais c'est pas le but. C'est pas ce qu'on veut.
Non, faut pas mettre
un forcement. Ce qu'on veut, c'est réduire.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Et puis, on a des objectifs donc à 2030, comme je te le disais, donc de réduire de 30% les émissions sur le scope 1. Déjà d'ici 2030, d'avoir 100% d'énergie renouvelable d'ici 2040. Alors en France, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà 100% utilisation d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est bien sur les deux sites.
Donc en fait, ça dépend finalement aussi, j'ai l'impression, des pays.
Oui.
Des progrès dans chaque pays. Oui. Donc au final, c'est pas du ressort.
Et en France, quand même, la RSE, c'est quand même... Enfin, moi, je trouve, entre guillemets, c'est bête à dire, mais je trouve qu'on a de la chance d'être dans ce pays qui fait quand même pas mal de choses pour la RSE. Le gouvernement met plein d'initiatives en place, la loi AGEC, par exemple. Il y en aura d'autres qui vont venir.
Il y a des pays où c'est plus compliqué pour toi?
Je sais pas. Je,
ah oui, toi,
tu
es vraiment France.
France,
oui, ouais. D'accord. Donc, y a pas, vous ne partagez même pas entre vous, entre bords.
Si, on partage, mais je me rends moins compte.
Et puis, il n'y a pas forcément ton poste dans tous les pays, j'ai l'impression.
Et mon poste n'existe pas dans tous les pays, non, effectivement. J'ai été la première à
ça
le créer.
Ça va être ça.
Et
puis après, prochaine étape, tu vas aller avec ton bâton de berger, tu vas aller dans chacun des pays, tu vas créer des postes. Il faudra ouvrir un poste.
Ouais, il existe déjà dans trois pays, mais dans trois pays. Ouais, mais donc, non, j'ai pas cette prétention, mais bon, il y a pas mal de choses à faire.
Il y a pas
ici,
mal de choses.
Donc ça m'occupe bien. Ouais. Et,
De toute façon, je pense que sur un poste comme le tien, il y a toujours plein de choses à faire. Ah, tiens, je vais sortir la question de mes auditeurs parce que j'ai toujours,
je pose toujours
à mes auditeurs une petite question. Et il y en a un qui me parlait de la décarbonation de la chaîne logistique. Est-ce que tu arrives à optimiser du coup tout l'impact en fait pour la rendre la plus
alors effectivement
propre
donc
possible.
Là on est plus sur le scope 3 en l'occurrence et effectivement alors l'avantage qu'on a aussi c'est qu'on a des relations moyen long terme avec nos fournisseurs de la chaîne logistique. Donc, on est vraiment dans un accompagnement, on entretient vraiment des relations long terme et ça nous permet du coup de les embarquer avec nous sur nos objectifs. Et donc, on souhaite également faire en sorte qu'ils réduisent de 60% les émissions de gaz à effet de serre sur les chaînes logistiques directement. Donc, on va travailler avec eux
sur la consommation de l'eau, qui sont les plus proches possibles. Vous essayez aussi de travailler dans un circuit plus court ou c'est compliqué encore de rapprocher
on
tout ça.
On essaye aussi de travailler sur des circuits plus courts. Mmh. Ouais, aussi. On essaye.
En fait, j'essaie d'optimiser un peu tout ce que vous pouvez.
Oui, c'est ça.
Et est-ce qu'il y a quelque chose
encore ?
Il y a
un peu l'urgence là, en fait, quelques années.
Il n'y a plus le choix, en fait, maintenant.
Oui, c'est ça. Donc, faut vraiment trouver tous les moyens d'avancer, c'est ce que je disais tout à l'heure sur ces sujets, et de rien lâcher, quoi.
Et toi, est-ce que tu as encore un gros sujet sur lequel tu n'arrives pas à... Enfin, tu as envie de trouver une solution, mais pour le moment, c'est encore compliqué. Tu te dis, tiens, j'ai pas, là, on n'a pas l'innovation, on n'a pas créé cette innovation-là pour pouvoir optimiser ça.
Alors, j'ai la chance, en fait, comme on est en France, on est très écouté par le siège. Parce que c'est vrai qu'on est un peu plus, pas en avance, mais de par les réglementations qui se mettent en place, etc. Donc, j'ai cette chance-là d'être très écoutée, en fait, par le siège de Dell Technologies sur les sujets RSE. Et donc, bon, moi, quelquefois, j'ai un peu des idées farfelues, donc forcément, il faut faire le tri.
C'était quoi ta dernière idée farfelue? Ah, j'aimerais trop savoir.
Bon, mais donc,
tu me la diras en off. Je vous la tweeterai.
Mais donc, oui, voilà, il y a des choses à faire. Et en plus, ils ont envie d'avancer aussi. Ils ont cette appétence pour l'innovation.
Mais je pense qu'aujourd'hui, est-ce que tu te rends compte que finalement, ton corps de métier, tout le monde dans l'entreprise cherche du sens de plus en plus à son travail et va vers toi, t'en parle, échange avec toi, même peut-être va être recruté dans ton équipe, non?
Oui.
Mais je reçois beaucoup de responsables RSE qui me disent « Ali, j'ai des demandes pour être recruté, mais tous les jours, c'est compliqué. »
Oui, c'est vrai.
C'est vrai?
Oui.
Tu vois, il y a un besoin de sens. Toi, tu
mais
l'as,
bon,
c'est sûr.
D'ailleurs, spontanément, il y a des personnes que je mets autour de moi comme, qui font ça en plus de leur job. Parce qu'elles ont cette appétence et qu'elles m'ont dit, moi aussi, je veux
discuter. Sur leur temps libre ou...
Non, sur leur temps professionnel. Donc, par exemple, il y a des responsables commerciaux, même des commerciaux qui me disent, moi, je veux aller plus avant dans les discussions avec mes clients sur ces sujets-là ou mes partenaires. Mais je manque de connaissances, donne-moi les informations, etc. Et du coup, ils avancent plus, même ils donnent des idées aussi. Hein. Il n'y a pas que moi qui suis. Mais donc, c'est riche, c'est sympa.
Et toi, tu es au COMEX ou pas?
Oui, moi je suis
voilà,
au COMEX.
Voilà, mais ça me rassure de savoir que les responsables RSE sont au comité exécutif.
Ouais.
Pardon pour le jargon, encore une fois. Des entreprises, c'est hyper important. Tu dois être au cœur de toutes les décisions.
Donc,
en fait.
Ce qui est bien grâce à ça, en fait, c'est qu'on peut décider, donc avec notre directeur général en France, donc Stéphane Huet, d'aller encore plus loin dans les objectifs de la Corp, en fait. Donc ça, c'est bien, je trouve. Je vais donner un exemple. Donc sur la loi AGEC, l'article 16 demande aux constructeurs IT notamment, à d'autres sociétés, mais aux constructeurs IT, de publier un index de réparabilité pour les ordinateurs sur le marché B2C. Donc on a fait ça et puis j'ai dit, avec d'autres collaborateurs, on s'est dit mais pourquoi que B2C d'ailleurs? Pourquoi pas B2B aussi? Et donc, on est allé plus loin et on produit l'indice de réparabilité pour les portables sur, pour le secteur B2B
aussi. C'est bien que tu en parles. J'avais oublié de te parler de la durabilité et des pièces. Et est-ce que finalement, aujourd'hui, Dell, qui vendait beaucoup de produits, va vendre davantage de services pour prolonger la durée de vie de ses produits, peut-être produire moins, mais allonger la durée de vie, donc continuer à faire du business, mais différemment. On sera plus sur un business d'usage.
Alors ça, je ne peux pas répondre à ta question. Mmh. J'aimerais bien.
T'aimerais bien.
Ouais.
Mais je pense
qu'on est, on est déjà dans cette dynamique-là. Ouais. De toute façon, on a déjà des garanties qui sont assez longues. Nos clients nous demandent maintenant d'étendre les périodes de garantie jusqu'à 7 ans. Donc on le fait, il n'y a pas de problème. Il y a les pièces. Enfin, tout ça, on sait faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on peut toujours pousser le bouchon un peu plus loin.
Maurice. Tout à fait. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Mais en fait, c'est une réflexion que j'ai souvent. Je me dis, mais c'est quoi le business demain? C'est quoi l'entreprise de demain? Et pour moi, c'est plutôt une entreprise qui va peut-être moins produire, produire mieux, avec plus de qualité, voilà, plus noble, mais qui va essayer de prolonger, donc de continuer à faire du business. On est là quand même pour faire du business.
C'est ça.
Mais en offrant des services pour allonger la durée de vie.
C'est ça, ouais. Donc là, je ne peux pas répondre vraiment à ta question, mais effectivement,
mais ce serait...
je pense qu'on y va. Mm. Bon, je pense qu'on y va, et en tout cas, j'aimerais vraiment bien qu'on y aille. Oui.
Et donc là, le consommateur qui est chez lui, qui écoute l'empreinte et qui se dit, bah, tiens, moi, j'ai acheté mon PC portable, est-ce que... Mais voilà, je suis sûre qu'il y a de l'obsolescence programmée, tu lui réponds quoi? Non, c'est pas du... Non, ça n'a pas l'intérêt pour vous de faire ça.
Non, ça ne marche plus, ça, je crois, en fait.
En fait, greenwashing, obsolescence, tout ça, ça marche.
Enfin, je comprends pas que ça puisse marcher. Aujourd'hui, on est...
Non, puisqu'on veut de la qualité. Et puis finalement, on va revenir vers des marques que l'on a consommées, dans lesquelles on a confiance, en fait.
Oui, et les clients, maintenant, ne sont plus tellement dupes. Quoi. Si on n'est pas sincère, ça ne marche plus. Donc, on est sincère dans notre démarche. Voilà, Michael Dell, le matin, quand il se lève, c'est ce que tu disais. Quoi. Il ne se dit pas, tiens, je vais polluer la planète, ça va être super.
C'est trop cool. Je suis ravie, leur PC va plus tout marcher dans une heure.
Donc,
ça va être trop bien.
Donc voilà, on est plutôt bienveillant, tout le monde.
Est-ce que tu aurais envie d'ajouter des choses qu'on n'aurait pas vues ensemble? J'aurais encore 12 000 questions, mais sinon l'épisode il va durer trop longtemps.
On n'a peut-être pas parlé de diversité et inclusion.
Donc c'est parlement, vrai que c'est un des sujets justement.
C'est vrai que moi, typiquement, ça m'a vraiment touchée parce que étant une femme dans l'IT, où on est quand même
loin
d'être majoritaire.
Non, mais c'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais voilà. c'est vrai.
Donc c'est vrai que en 18 ans, j'ai vu des choses vraiment belles se faire. Donc d'abord, les groupes de diversité, ce sont des groupes qui sont menés par les employés. Donc c'est des groupes de travail sur tous les axes de la diversité. Donc là, je te parle des femmes, mais il y a autre chose. Il y a les LGBT+, il y a les personnes en situation de handicap. Enfin, il y en a plein d'autres. En France, il y en a 9 en l'occurrence.
Diversité, oui, tout ça.
Et donc, ces jeux-là sont vraiment embarqués par les employés eux-mêmes. C'est les employés qui disent, c'est un peu comme moi j'ai fait quand j'ai dit, voilà, tiens, il n'y a pas de job RSE, il faudrait aller, voilà. Et ben, ils disent, tiens, là, il n'y a pas ce groupe de diversité-là, ça manque. Il faut le créer. Et donc, il y a cette bienveillance du management qui dit, OK, faites-le. Conduisez vos projets à moyen long terme pour changer, pour éclater les plafonds de verre s'il y en a. L'idée, c'est que tous les employés doivent être bien épanouis dans l'entreprise et avec toutes nos différences. Et c'est ce qui fait la richesse du groupe. Et c'est ce qui fait aujourd'hui... Je suis personnellement convaincue que le groupe en est là aujourd'hui grâce à cette écoute que le haut management a eue sur la diversité. C'est ce qui fait la richesse vraiment de l'entreprise et qui fait qu'elle est aujourd'hui, je pense, au niveau où elle en est, c'est sûr. Mmh. Sans ça, ça ne marche pas, quoi.
Bon, dans 18 ans, tu reviens dans l'empreinte?
Oui.
Le podcast aura explosé, vous serez des millions d'auditeurs.
Avec plaisir.
Et tu seras neutre. Ah non, dans 18 ans, non, pas encore neutre carbone, mais bien l'avancé, vous aurez bien réussi.
C'est ça.
Merci d'être venu jusqu'ici.
Merci à toi, Alice.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.